Et là-dessus, on va aller rejoindre Paul Oud. Et Paul est au téléphone aujourd'hui parce qu'on...
Salut Patrick, ben oui, je suis en panne d'électricité.
Ben oui, panne d'électricité à Laval, comment ça?
On n'aurait pas besoin de ça, n'est-ce
non?
pas?
Mais non.
Je sais pas.
OK.
C'est arrivé comme ça, juste avant que je puisse te parler.
OK, parle-nous de Donald Trump.
Oui, parce que la conférence de presse se déroule en ce moment à Washington. Et écoute, c'est incroyable, c'est comme un film d'horreur, parce qu'au moment où Trump s'en est, les États-Unis sont devenus, statistiquement, le pays où il y a le plus grand nombre de cas maintenant. Tu le sais, depuis quelques minutes.
Oui.
81 000 cas et plus. Et Trump n'a pas aimé, évidemment, qu'on lui rappelle ça. Alors, le président américain a dit, « Oui, mais vous savez, on dépasse la Chine, mais on ne peut pas se fier aux statistiques de la Chine. »
OK. Mais on peut se fier aux statistiques américaines.
Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, la réalité des choses. L'autre incroyable discours qui tranche tellement, combien de temps ça va durer, alors que les États-Unis n'atteindront pas le paroxysme de la crise avant au moins 3 semaines. Comment va-t-il pouvoir tenir un point de presse dans 3 semaines quand là, le nombre de décès va être absolument astronomique? Il n'y a rien pour arrêter ça. Il s'en va dire à au moins 4 reprises. Je l'ai compté à 4 reprises, en tout cas. On doit retourner au travail. On doit retourner au travail. On doit retourner au travail. Si on ne retourne pas au travail, bon, on prendra nos distanciations, mettre en place, vous allez vous laver les mains pour retourner au travail. Écoute, je veux dire une chose, c'est surréaliste. Vous regarderez la réaction des journalistes ce soir un peu partout, mais ça devient de plus en plus inquiétant, là. On doit retourner au travail alors que la crise commence à prendre ce qu'on appelle la grande envolée exponentielle. Moi, tu sais, écoute, je vais te le dire, ben franchement, j'ai jamais été un Trump basher. Je suis pas quelqu'un qui est toujours en train de fesser sur Trump, puis toujours en train de... Mais là, je t'avoue une chose, je suis absolument dérouté. Je suis ni pro, ni contre, j'essaie juste de regarder la situation actuelle. C'était surréaliste comme point de presse.
Ce qui est consternant, Paul, c'est que il contredit tous les scientifiques qui disent, regardez, il va falloir faire comme en Italie, c'est-à-dire une sorte de quarantaine, de confinement là, appliqué avec force, sinon vous allez juste empirer les choses.
Écoute, le docteur Anthony Fauci,
oui.
J'ai plus besoin de le présenter, qui est toujours derrière lui, qui est un peu le grand spécialiste national, il fait partie de sa cellule de crise sur les épidémies, les virus et tout ça, ne cesse poliment, mais fermement, de dire le contraire. Le président s'amène au micro, le docteur Fauci s'amène, puis il dit non, 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 non. Le docteur Fauci, sa plus grande crainte, c'est que dans l'hémisphère sud, où il n'y a pas beaucoup de cas, mais il y en a pas mal quand même, et je te parle du Brésil, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, eux s'en vont, ils sont en automne, ils s'en vont vers l'hiver. Et le docteur Fauci a dit, ce virus-là se complaît, disons, mieux dans les températures froides ou plus fraîches. Alors, si on commence, nous, à baisser la garde ici en Amérique ou en Europe, ben, il dit, l'hémisphère sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud va nous rattraper peut-être dans une deuxième vague. Il est allé dire ça alors que Trump ne martèle qu'une chose, faut retourner au travail. Faut retourner au travail le plus vite possible. Faut retourner au travail le plus vite possible. Je me demande comment il peut affirmer ça.
Et tu sais, Paul, il y a des gens qui disent, écoutez, la grippe tue beaucoup de monde, il y a d'autres tares dans la société qui tuent beaucoup de monde. Tout ça est vrai. Dans le cas qui nous occupe, là, c'est qu'on le dit, on le répète, si les hôpitaux sont submergés, ça va être terrible parce qu'on ne pourra pas soigner tout le monde. C'est ça qu'on essaie d'éviter en aplatissant la courbe. Puis M. Trump, là, c'est pas juste qu'il y a des milliers d'Américains qui risquent de mourir. La façon dont ils vont mourir va être dénoncée par tout le monde. Je veux dire, quand les gens vont se mettre à raconter qu'ils sont arrivés à l'hôpital et qu'il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y a pas d'équipement pour les soigner, il y a beaucoup d'Américains, je pense, qui vont trouver ça inacceptable.
Écoute, Patrick, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que j'ai fait mes devoirs et mes leçons. Hier, je suis allé voir les statistiques de la grippe influenza. H1N1, H2N2, combien de temps? Parce qu'il ne fait que redire la même chose. Vous savez, c'est pas pire que la grippe. La grippe, on est habitué. Il y a une pointe et tout ça. Il n'y a pas tout à fait tort sur le nombre de personnes infectées par l'influenza. Sais-tu combien d'Américains sont infectés chaque hiver? J'ai les statistiques devant moi. 30 millions d'Américains. OK? Chaque hiver. Maintenant, attention, attention. 30 millions d'Américains, il y en a 14 millions qui consultent un médecin. Il y a au total 50 000 à 60 000 Américains qui meurent de l'influenza chaque année. OK? Mm-hmm. Bon, alors, il n'y a pas tout à fait tort de marteler ces chiffres-là. Le problème de l'affaire qui ne comprend pas, c'est que les 30 millions d'Américains, Patrick, ne se présentent pas tous en même temps dans le système de santé, sur une période d'une semaine, de 10 jours. Tu comprends? Le message qui est martelé par François Legault et le docteur Arruda, c'est qu'il dit, de grâce, essayons de limiter la propagation pour ne pas engorger notre système de santé. Aux États-Unis, catastrophe à New York en ce moment, et comme je te dis, tu ne peux pas comparer avec la grippe, parce que les 30 millions d'Américains, ils commencent à se présenter chacun de leur bord, un peu isolés, à partir, mettons, du mois de novembre, puis ça s'étire jusqu'au mois de mars. Et là, tout le monde veut aller consulter, aura besoin peut-être des hôpitaux. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre.
OK, parle-moi de James Dyson, hein, qui est le roi des balayeuses, et lui qui arrive un peu à la rescousse, là.
Écoute, je l'ai déjà fait en entrevue à l'émission de Chinim. Il était venu un soir. Il était de passage à Montréal. Et je veux terminer là-dessus parce que, je veux dire, quand tout ça sera terminé, oui, il y a des gens qu'il ne faudrait pas oublier, puis d'autres qu'il faudra oublier. Est-ce qu'on se comprend?
On se comprend.
James Dyson, il fabrique probablement les meilleures balayeuses au monde, mais ils sont chères, par exemple. Je ne sais pas si tu as une Dyson chez vous.
Non, je n'ai pas de Dyson. J'ai pas ce plaisir-là. Non.
Mais ils sont vraiment bas. Les balayeuses Dyson, là, mais malheureusement, ils coûtent cher. Écoute, c'est pas ça que je veux te dire. Il y a 10 jours, le premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Boris Johnson, donne un coup de fil à James Dyson. Il dit, écoute, on a mal calculé notre affaire. Le coronavirus au Royaume-Uni va être épouvantable. On va manquer de respirateurs artificiels. Dyson, il dit, merci, je retourne dans mon usine. En 10 jours, James Dyson et ses employés ont inventé un respirateur artificiel à partir de ses connaissances sur les aspirateurs. Le service de santé en a commandé 10 000. Il a déjà donné un nom au nouveau produit, le Covent. L'appareil est précisément en plus adapté aux patients qui souffrent de la COVID-19. Et Dyson s'est dit, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens peut-être de se payer mon nouveau respirateur artificiel. Alors, il m'a envoyé 5 000 gratuitement. Puis il y a d'autres dons qui vont suivre.
Mais est-ce qu'on sait si ça fonctionne?
Ça fonctionne à merveille. En 10 jours, ils l'ont inventé. Ça te rappelle pas un peu, c'est pour ceux et celles qui ont vu le film, mais c'est un incident réel, Apollo 13. Tu te rappelles Apollo 13?
Oui, l'ingéniosité en orbite.
Mais tu te rappelles, le panneau de contrôle saute dans le module de commande. La vie des astronautes est en jeu. Ils sont obligés de transférer dans le module lunaire. Et puis, tout à coup, ils remarquent une chose qui peut les tuer. Dans les heures qui vont suivre, le taux de monoxyde de carbone commence à monter. Le filtre ne fonctionne plus. À la NASA, et dans le fameux film avec Tom Hanks, tu le vois, il lance une boîte de carton avec toutes sortes d'objets, des bouts de tuyaux, des... Et le directeur de la NASA, à ce moment-là, dit, nous avons quelques heures pour inventer un nouveau filtre contre le monoxyde de carbone. Ils sont parvenus. Ce que je veux dire par là, c'est que Dyson envoie un message très clair. Lui, il s'est dit, on a 10 jours, on va le faire. Et là, les appareils vont être livrés le 1er avril, la semaine prochaine. 10 000 respirateurs artificiels. Quelle histoire! Moi, j'ai pris note, parce que j'ai besoin qu'on s'en souvienne quand la crise sera passée, qu'il y a des gens qui ont dit, et moi, ce que j'aimerais, c'est que James Dyson soit aussi bon dans les aspirateurs qu'il pourrait l'être dans les virus, dans les vaccins, c'est-à-dire, ou les médicaments.
La nécessité est la mère de l'invention.
Eh oui. Est-ce que je peux te faire rire encore?
Fais-moi rire.
En terminant?
Oui.
Écoute, ça ne s'invente pas. Demain, je t'en reparlerai. Je trouve que le prix de l'essence, c'est pas une priorité en ce moment, parce qu'on fait pas beaucoup de plein d'essence. Mais c'est beaucoup trop cher au Québec. Écoute, en Ontario, à Hamilton, c'est rendu 55 cents. Puis ici, on
55 cents, Paul?
55 cents le litre à Hamilton.
Écoute, ouais. Je pense que quand j'ai commencé à conduire, ça coûtait 55 cents.
Ben, tu vois.
90 en ce moment, environ.
Regarde, je veux pas faire un plat, je veux pas faire un éditorial, mais ici, il se vend 80 cents. C'est quand même pas mal 25 cents de plus le litre. Mais c'est pas ça. C'est que tu as une consœur à la presse qui écrit un superbe article en ce moment et ça ne s'invente pas. Elle parle, elle dit, ça n'a pas de bon sens qu'on paye l'essence aussi cher au Québec par rapport aux autres provinces, compte tenu du prix du baril de pétrole. Et ta consœur, elle se nomme Hélène Barry.
Oui. Oui. Écoute, Antoine Robitaille, qui a collaboré longtemps ici à la station, qui est chez au Journal de Montréal, Journal de Québec, appellerait ça un aptonyme, quelqu'un qui porte un nom qui est tout à fait apte à la situation.
Écoute, en pleine crise du verglas à RDI, la présentatrice Brigitte Bougie interviewait la porte-parole d'Hydro-Québec, Mme Lalumière. Il y avait 2 millions de Québécois qui étaient privés d'électricité, comme je le suis en ce moment, et Brigitte Bougie disait « Bonjour, Mme Lalumière », et Mme Lalumière disait « Bonjour, Mme Bougie ».
Tu sais, ça s'invente pas.
Alors, très bon article, d'ailleurs, de ta consoeur.
Mme Barry.
Sur le prix d'essence. Oui, Mme Barry.
Merci, Paul. Merci, on s'en parle demain. Après la pause, l'humoriste Pierre Hébert nous raconte, non pas sa panne d'électricité, sa quarantaine. Un petit peu de misère à se couper les cheveux lui-même, le beau Pierre.